Radio Kapi.
Les informations avec Jean-Désiré Kanyama.
Au sommaire de ce journal, tête à tête, Félix Tshisekedi, William Ruto, ce lundi avant midi à Kinshasa, le président kenyan et son homologue de la RDC ont échangé autour des questions de coopération bilatérale et la situation sécuritaire à l'est de la RDC. Lancement hier dimanche à Niamey et au Niger de la semaine d'industrialisation de l'Union africaine. Selon Julien Paluku, ministre congolais de l'Industrie, la transformation locale des ressources naturelles africaines est au menu de cette semaine d'industrialisation. L'invité de ce journal est M. Anaclet Mutombo, un des bénéficiaires à Kananga, au Kasaï central, du projet Transform financé par la Banque mondiale. Anaclet Mutombo partage son expérience dans le cadre du projet d'appui pour le développement des micro, petites et moyennes entreprises. Mesdames, Messieurs, bonjour. Visite de travail du président kenyan à Kinshasa, arrivé hier dimanche dans la capitale congolaise. William Samuel Ruto a échangé avec le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi ce lundi à la Cité de l'Union africaine autour des questions de coopération bilatérale et la situation sécuritaire à l'est de la RDC. Nous vous proposons tout de suite un extrait du communiqué conjoint lu par le ministre des Affaires étrangères de la RDC, Christophe Lutundula.
À l'occasion de cette visite, les deux chefs d'État ont échangé sur les questions de coopération bilatérale et sur la situation sécuritaire prévalant à l'est de la République démocratique du Congo. S'agissant de la coopération bilatérale, les deux chefs d'État se sont félicités de l'excellence de relations d'amitié qui existent entre la République démocratique du Congo et la République du Kenya depuis de longues années et ont réaffirmé leur volonté de les consolider davantage au profit de leurs peuples respectifs, plus particulièrement dans les domaines de la défense et sécurité, de l'agriculture, de l'énergie, des infrastructures, des finances, de l'administration publique et du commerce.
Autre sujet abordé entre les deux chefs d'État, c'est l'engagement des deux nations à retrouver la paix dans la partie est de la RDC. Pour William Samuel Ruto, en tant que membre de la communauté des États de l'Afrique de l'Est, l'insécurité dans cette partie de la RDC constitue un sérieux problème pour toute la sous-région, d'où l'engagement et la responsabilité de son pays à appuyer le gouvernement congolais déjà par le déploiement d'un contingent de son armée et aussi à travers une commission mixte qui suit la question sécuritaire ainsi que la coopération en matière d'investissement. William Samuel Ruto répond ici à la question relative au mandat des troupes kenyanes déployées déjà dans la partie est de la RDC. Il est au micro de Billy Ivan Lutumba.
The rules of deployment have been agreed upon, and it is on that basis that
le mandat de la force régionale de la communauté de l'Afrique de l'Est a été issu de l'accord entre les chefs d'État. Et cela a été communiqué lors de la réunion du Conseil de paix et sécurité de l'Union africaine. Le mandat est donc celui de garantir la paix dans la partie est du pays et renforcer la paix et par rapport et au regard des activités menées dans ces coins urbains qui ont tendance à créer l'instabilité et l'insécurité. Nous sommes bien au courant qu'il existe des efforts avec pour vocation de maintenir la paix et nous encourageons cela. Mais seulement en tant que région, nous sommes aussi conscients du fait qu'il nous semble bien que ces efforts ne sont pas assez suffisants. Raison pour laquelle nous venons pour créer des efforts qui vont soutenir les efforts déjà en cours afin de pouvoir renforcer la marche vers l'atteinte de ces solutions. Et déjà, les opérations, les problèmes d'opération ont déjà été signés et aussi les réglementations par rapport au déploiement ont déjà été convenues et nous sommes donc prêts à envoyer la force kenyane dans le cadre de ces négociations.
Et pour sa part, le président Félix Tshisekedi a résumé son tête-à-tête avec le chef de l'État kenyan par la quête de la sécurité et la stabilité afin du développement des deux États qui se trouvent être dans une même zone économique. Au nord Kivu, pendant ce temps, une accalmie est rapportée ce lundi matin dans la zone de Kibumba. Les armes se sont tues après les affrontements d'hier dimanche entre les FARDC et les rebelles du M23. En revanche, selon plusieurs sources civiles et militaires, des combats sont signalés depuis ce matin dans le groupement de Tongo. C'est dans la chefferie de Bwito, en territoire de Rutshuru. Des détails avec Babel Mpongo Massimango.
Les sources de la société civile indiquent que la nuit a été calme sur l'axe Kibumba après les affrontements d'hier matin entre 5 heures locales et qui se sont poursuivis à la mi-journée du dimanche. Des sources militaires dans la région signalent que les FARDC ont empêché toutes les tentatives des rebelles de les déborder vers Kilimanyoka et Kibati avant de les repousser jusqu'à la hauteur du marché de Ruhunda, trois antennes à Kibumba. Cependant, des affrontements sont signalés depuis 6 heures locales de ce lundi du côté de Tongo, dans la chefferie de Bwito. Selon les habitants joints sur place, les rebelles sont à l'heure qu'il est dans quatre localités du groupement des Tongo. Ils tenteraient d'avancer les uns vers Bambu Nyanzale et les autres vers Milimbi, sur l'axe Kichanga. La population civile est restée, pour la plupart, dans Tongo à la suite de certaines contraintes, indiquent ses sources. Certains notables locaux dans le territoire des Rutshuru évoquent d'autres affrontements qui ont eu lieu hier dimanche dans le groupement des Binza au nord-est de Kiwanja. Ces sources font état d'une avancée des rebelles M23 qui se seraient emparés des villages de Kiseguro et de Katwiguro à une dizaine de kilomètres au sud de Nyamilima. Les habitants de la zone sont inquiets de cette présence des rebelles.
Il s'agit là des innocents Fazili. Au nord Kivu encore, une psychose règne depuis la nuit d'hier dimanche à ce lundi dans la partie extrême nord de la ville de Butembo. À la base, une attaque des miliciens Maïmaï sur la position militaire à la colline de Mouzambaye dans la commune de Vulamba. Nos sources avancent un bilan provisoire d'un militaire tué et retrouvé décapité par des inconnus à 1 kilomètre de cette position militaire. Cette situation a paralysé les activités socio-économiques au centre-ville de Butembo. En Ituri, 5 personnes, dont 2 militaires, sont mortes et 15 autres ont été enlevées au cours de l'attaque hier dimanche des rebelles des ADF au village de Malibongo dans la chefferie de Bahemaboga à 120 kilomètres au sud de Bunia. Selon des sources concordantes, ces rebelles ont incendié certaines maisons et se sont livrés au pillage systématique des biens des habitants qui ont fui à Boga Centre. La société civile d'Irumu indique que les FARDC ont repoussé l'ennemi après des combats entre les deux parties. Et puis la force des résistances patriotiques pour l'intégrité du Congo dénonce ce qu'elle qualifie de complaisance et d'hypocrisie de la communauté internationale face à la crise humanitaire qui secoue la partie est de la RDC. Dans une déclaration politique du directoire de ce parti hier dimanche, ici à Kinshasa, la FRPI appelle à la mobilisation de tous les Congolais pour soutenir les FARDC contre cette guerre. Elle demande au président de la République de convoquer urgemment toute la classe politique et les forces vives dans une large concertation. On écoute le président de ce parti, Pierre-Célestin Mbondina Iribi, au micro de Jeff Ngoy.
La FRPIC condamne avec fermeté l'agression du Rwanda et de l'Ouganda contre notre pays et appelle le peuple congolais à se lever comme un seul homme derrière son commandant suprême, son Excellence, Monsieur le Président, Félix-Antoine Tshisekedi, pour barrer la route à toute tentative de balkanisation de notre pays. Dénonce le complot international qui consiste à faire de la République démocratique du Congo le marchepied de la région. La FRPI déplore la crise humanitaire et dénonce la solidarité à géométrie variable par rapport à l'engouement de la solidarité internationale face à la situation en Ukraine. Appelle le gouvernement à réduire sensiblement le train de vie des institutions afin de trouver un surplus de moyens pour une dotation d'un arsenal de pointe et moderne à notre armée.
Lancement hier dimanche à Niamey, au Niger, de la semaine d'industrialisation de l'Union africaine. Cette activité se tient en prélude du sommet extraordinaire des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine prévu pour le 25 novembre prochain dans la capitale nigérienne. Selon Julien Paluku, ministre congolais de l'Industrie, la transformation locale des ressources naturelles africaines est au menu de cette semaine d'industrialisation. D'autres détails avec vous, Alain Irung.
Le ministre congolais de l'Industrie a présenté le plan directeur d'industrialisation de la RDC avec le développement des zones économiques spéciales et le grand projet panafricain de l'industrie des batteries électriques. Il a aussi insisté sur la transformation locale des produits africains pour leur donner une valeur ajoutée. Julien Paluku-Kaungia.
Désormais, nous devons développer des outils qui soient à même de nous permettre de transformer nos produits localement parce que 60 ans après nos indépendances, il s'est avéré que les exportations des matières brutes n'ont pas aidé à renforcer les économies africaines. Maintenant que tous les Africains ont pris conscience qu'il faut donner de la valeur ajoutée à nos produits, c'est le moment ici de devoir mettre en place tous ces outils-là.
Pour la ministre nigérienne de l'Industrie, il est plus que temps pour que l'industrialisation inclusive de l'Afrique soit une réalité. Guruza Salamatu.
Nous avons des avantages compétitifs que beaucoup de continents n'ont pas. Et toutes ces ressources sont disponibles. Nous devons seulement conjuguer nos efforts au niveau de l'Afrique pour que cette industrialisation inclusive dont nous parlons soit une réalité.
Selon Julien Paluku, les partenaires techniques et financiers qui ont salué le plan directeur d'industrialisation de la RDC ont réitéré leurs engagements d'appuyer l'industrialisation du continent africain.
La Fondation Giglio Levôtre, qui accompagne les enfants atteints d'albinisme, a visité hier dimanche le Musée national de Kinshasa, une activité tenue en marge de la Journée mondiale de l'enfance, célébrée le 20 novembre de chaque année. Pour Jules Kalala, coordonnateur de cette fondation, cette visite contribue à l'épanouissement intellectuel de ces enfants atteints d'albinisme, une façon de lutter contre la discrimination dont sont victimes ces enfants. Un reportage signé Kelly Oka.
Nous sommes à Kabolongo dans le groupement Chambi, chefferie de Bangui.
Une vingtaine d'enfants atteints d'albinisme ont été émerveillés par les œuvres d'art du Musée national de Kinshasa. Un moment de détente et d'instruction qui interpelle Jules Kalala, coordonnateur de la Fondation.
Les enfants albinos méritent d'être bien éduqués, bien instruits, passés à l'école. Au Congo, on parle de la gratuité de l'enseignement, mais on oublie l'inclusivité de l'enseignement. Il faudrait adapter notre enseignement aussi pour les enfants atteints d'albinisme. Au-delà de ça, il y a le droit à la protection. Puisque les enfants atteints d'albinisme sont considérés comme des handicapés, ils méritent une protection adaptée à leur handicap.
Les jeunes enfants de la Fondation Jules Levôtre ont profité de ce moment pour passer un message aux autres enfants atteints d'albinisme.
Il faut enlever la discrimination. Parce que même si la personne ne t'aime pas, si déjà toi-même tu te mets en toi que je suis ce que je suis, tu vas avancer.
Ils doivent avoir la connaissance, ils n'ont pas le droit d'avoir le souci de se regarder avec d'autres enfants.
Dans les prochains jours, plusieurs activités seront organisées par la Fondation Jules Levôtre, destinées à l'intégration sociale des enfants atteints d'albinisme.
Au Maniema, l'école primaire Sewis de Kabolongo, dans le groupement Chambi, chefferie de Bangengele, en territoire de Kailo, vient d'être dotée de tôle pour la réhabilitation de sa toiture en état très délabré. Ce don de la chefferie issue de la rétrocession a été remise par le numéro 1 de la chefferie de Bangengele le week-end. Athanase Linganja Douglas inscrit cette dotation dans le cadre d'accompagner le président de la République dans sa vision d'améliorer la qualité de l'enseignement en RDC. On l'écoute dans ses propos recueillis par Florence Kizalunga.
Nous sommes à Kabolongo dans le groupement Chambi, chefferie de Bangengele, territoire de Kail, province de Maniema. Nous sommes venus doter notre école de EPCWIS de Kabolongo avec les tôles pour la construction. Le gouvernement national est en train de nous aider avec la rétrocession. Cette rétrocession est bel et bien arrivée au niveau de la base. Et voilà pourquoi nous sommes en train de matérialiser la vision du chef de l'État pour la construction des écoles dans notre entité, qui est la chefferie de Bangengele. Malgré que ça ne répond pas totalement, mais petit à petit, nous allons aboutir, nous allons atteindre le nombre de salles que l'école est en train d'occuper. Mais nous savons qu'à un moment donné, on aura encore quelque chose, nous allons ajouter, pour que toute l'école ait quand même des salles, ainsi que les bureaux, ça sera occupé à la prochaine.
Au Kwilu, lancement hier dimanche au centre Tomboa à Bandundouville de la formation de niveau 2 des intervenants à la révision du fichier électoral, opération qui débute au mois de décembre prochain. Selon les rapporteurs adjoints de la centrale électorale, en séjour dans cette ville, les participants à cette formation seront outillés afin d'être capables de rendre un meilleur service d'enrôlement à la population. À l'occasion, Paul Moïndo rassure sur la tenue de l'enrôlement des électeurs dans les territoires de Kwamou, Toma Ndombe et de Bagata au Kwilu, en proie aux atrocités des assassins armés ayant causé plusieurs morts. Paul Moïndo est au micro de Irène Boma.
Il y a des opérations que nous devons avoir bien avant, notamment la formation. Et maintenant là, nous allons lancer à partir de cette province la formation du niveau 2. C'est en fait, nous voulons avoir des agents qui ont un niveau de compétition élevé. Des agents qui sont capables de rendre un service d'enrôlement à nos populations sans beaucoup de contestation. Et la formation va durer 7 jours. Nous allons former les CEP, les agents des antennes, les préfocaux juristes dans le cadre des préparatifs dans l'enrôlement qui est prévu pour ce mois de décembre. Et donc, c'est dans quelques jours à la population de se préparer.
Mais il y a les territoires de Kwamout, Oma Ndombe et celui de Bagata Okwilu qui sont touchés par l'insécurité. Est-ce que l'enrôlement des électeurs sera aussi organisé dans ces entités?
Donc, nous allons prendre des dispositions pour que les populations de ces entités ne puissent pas être exclues. La CENI est en contact permanent avec le gouvernement pour prendre des dispositions et douanes capacités.
Lancement également hier dimanche à Matadi au Congo central de la même formation de niveau 2 sur la révision des fichiers électoraux à l'intention du personnel du secrétariat provincial de la Commission électorale nationale indépendante ainsi que des préposés aux différentes opérations de processus électoral. Cette formation est assurée par les experts nationaux de la CENI. Le secrétaire exécutif provincial de la CENI Congo central a indiqué qu'un bon fichier électoral constitue un socle de tout un processus électoral. Ainsi, Bernardine Kitondo invite les participants à relever les défis pour que le Congo central enrôle massivement dans le délai imparti. Des détails avec Nana Plurich Mambou.
Cette session du niveau provincial sur la révision du fichier électoral va durer 7 jours et sera assurée par 26 formateurs électoraux, conduits à Matadi par Guy Chimba, superviseur technique et managérial à la CENI. La dite session concerne les membres du secrétariat exécutif provincial, les chefs d'antenne, les informaticiens, les formateurs électoraux provinciaux ainsi que les points focaux juristes. Ces participants, 160 au total, vont apprendre la technique de formation ainsi que la technique de l'identification et enrôlement des électeurs, qui passe par les connaissances sur le fonctionnement d'un centre d'inscription, son installation, sa composition ainsi que les rôles des membres qui les composent. La révision du fichier électoral pour laquelle ils sont en train d'être formés va consister à mettre à jour les listes des électeurs en intégrant les nouveaux majeurs, actualiser les anciens enrôlés et élaguer les électeurs décédés pour ainsi avoir une cartographie des potentiels électeurs à l'horizon 2024. Après cette formation, les participants qui auront bien assimilé les matières seront déployés dans les 12 antennes de la CENI qui composent le Congo central pour assurer la formation du niveau territorial. Signalons que l'enrôlement pour les élections de 2023 débute en principe vers la fin du mois de décembre de cette année. D'après la CENI, ce processus électoral connaît quelques innovations, notamment l'utilisation de petites machines qui ne seront pas connectées aux groupes électrogènes, mais plutôt aux panneaux solaires et batteries lithium, faciles à déplacer. Matadi, Nana Plurich Mambou, Radio Okapi.
Actualité internationale.
Les bureaux de vote ont fermé hier soir en Guinée équatoriale pour laisser place au dépouillement des suffrages exprimés. 427 061 Équato-Guinéens sur 1,4 million d'habitants étaient convoqués aux urnes pour départager le président sortant Teodoro Obiang et deux opposants. Le vote s'est déroulé sans incident avec une forte participation selon la commission électorale.
L'invité.
L'invité de ce journal est M. Anaclet Mutombo, l'un des bénéficiaires à Kadanga au Kassai central du projet Transform financé par la Banque mondiale dans le cadre de la promotion de l'entrepreneuriat. Anaclet Mutombo partage son expérience dans le cadre du projet d'appui pour le développement de micro, petites et moyennes entreprises. François Kadima l'a rencontré à Kadanga.
Monsieur Anaclet Mutombo, bonjour.
Bonjour François.
Alors, le PADEMPME est dans une autre phase, une phase où les entrepreneurs, ceux qui ont les PME, les femmes, vont bénéficier, mais après avoir compétit. Vous êtes cette expérience de quelqu'un qui a également participé à la première phase et était parmi les lauréats. Comment ça s'est passé?
Il faut dire que ça s'est passé de façon très transparente. Vous avez tout ce qu'il y a comme réseaux sociaux qui nous ont permis, à travers nos structures aussi, d'accéder à la bonne information. Mais au départ, il faut dire que nous sommes parmi les futurs qui ont milité pour que ce projet soit dans les délais votés au niveau du Parlement et promulgué par le président. Donc ça veut dire que nous sommes parmi ceux qui ont milité pour que les 100 millions restent dans ce pays et que les jeunes, dont moi-même, nous puissions bénéficier. Nous avons compéti à travers ce COPA-là, le concours des plans d'affaires, et nous y sommes allés parce qu'il fallait suivre les différentes étapes, il fallait remplir les différents critères sollicités, et nous étions là. Et nous avions été parmi les meilleurs lauréats et nous avons fait ce que le COPA attendait de nous.
Vous avez bénéficié de montant de quelle hauteur? Qu'est-ce que vous en avez fait? Partagez-nous une expérience qui peut aider les autres à se dire, on peut aussi compétir. Est-ce que cet argent, c'est l'État qui va gérer pour nous? Nous allons gérer ça nous-mêmes.
Ben nous, on est allé jusqu'au-delà de 100 000 parce que déjà, nous attendions autour de 200. Après analyse, on nous a octroyé autour de 103 000. Et les 100 000 ont servi justement à acquérir du matériel dont nous avions besoin pour créer de nouveaux produits pour l'entreprise et accroître notre capacité de fourniture. Alors, cet argent, en principe, ce n'est pas l'argent qui le gère pour vous, c'est votre argent. Il va sur votre compte que vous avez ouvert, mais que ça doit être un compte dédié à ce projet-là. Il y a un mécanisme pour accéder à ce fonds, c'est que vous devez en principe uniquement le transférer à vos fournisseurs. Vous avez besoin des machines, ça veut dire que l'argent reste sur votre compte, vous ne le retirez pas pour gérer ça comme vous le voulez. C'est qu'il y a un mécanisme qui est mis en place pour faire en sorte que l'argent aille vers les besoins pour lesquels on vous l'a donné. C'est une subvention de l'État, c'est-à-dire que vous ne le remboursez pas, mais grâce à ce que vous allez en faire, vous aurez aidé l'État par les impôts que vous allez payer à rembourser cet argent auprès de la Banque mondiale.
Vous, quel genre de projets qui ont permis que vous bénéficiez ou vous gagniez les 103 000 dollars?
Alors, il y a des secteurs qui sont éligibles. Il y a déjà le secteur des services, il y a le secteur de l'agro-transformation, il y a le secteur de la petite industrie. Les jeunes sont dans ces secteurs-là. Bon, ça veut dire que d'office, ils sont éligibles. Maintenant, il reste qu'ils soient plus accompagnés dans le montage financier, dans l'élaboration et la conception des états financiers, on va dire ça comme ça, et surtout du plan d'affaires. Parce que c'est dans ce plan d'affaires, en fait, que vous devez vendre votre idée, votre projet, afin que ce projet soit mieux compris, qu'il soit accepté et qu'on y décèle la valeur ajoutée qu'il a apporté dans la communauté, dans votre entreprise et autour de vous.
Aujourd'hui, quelqu'un peut vous dire que moi, je suis commerçant, je peux aussi compétir. Donc, quand vous parlez de service, vous parlez d'une production locale, expliquez-nous en détail.
Très bien. Alors, il faut déjà dire que le commerce, il exclut. Ne sont éligibles aux projets que les entrepreneurs. Vous avez les PME établies, vous avez les PME nouvelles, les femmes entrepreneurs aussi. Alors, par service, je donne un exemple. Vous êtes dans la restauration. Ok, vous avez un restaurant que vous tenez, vous avez un début de poisson, vous vendez les services, ok, à votre clientèle. Par la petite industrie, par exemple, je prends le cas d'un jeune qui fabrique les craies. Il est dans la petite industrie. Il a besoin des machines, il a besoin des emballages, il a besoin d'un espace de travail pour produire, il a besoin du courant. Donc, c'est ça la petite industrie. Vous avez le cas de l'agro-transformation, quelqu'un qui, par exemple, prend les citrons, ok, il en fait demain un jus ou un détergent. Ok, donc c'est de ce genre d'initiative, c'est de ce genre de projet dont on aura besoin pour que les porteurs soient éligibles.
Monsieur Anaclé Mutombo, je vous dis merci.
C'est moi qui vous remercie.
Anaclé Mutombo, l'un des entrepreneurs de la ville de Kananga au Kassai Central, bénéficiaire du projet Transform financé par la Banque mondiale, était l'invité de François Kadima. Fin de ce journal. Merci de continuer à les réécouter sur toutes les plateformes digitales de Radio Kapi.